Après avoir pris de cette lettre la copie que voici pour garder ce monument en entier, j'allai rue Payenne. L'inquiétude avait vaincu l'opium. Octave se promenait comme un fou dans son jardin. « Répondez à cela, lui dis-je en lui donnant la lettre de sa femme. Tâchez de rassurer la pudeur instruite. C'est un peu plus difficile que de surprendre la pudeur qui s'ignore et que la curiosité vous livre. » C'est à moi ! S'écria le comte, dont la figure exprimait le bonheur à mesure qu'il avançait dans sa lecture. Il me fit signe de la main de le laisser seul en se sentant observé dans sa joie. Je compris que l'excessive félicité comme l'excessive douleur obéissent aux mêmes lois. J'allais recevoir Madame de Courteville et Amélie qui dînaient chez le comte ce jour-là. Quelque belle que fût Mademoiselle de Courteville, je sentis, en la revoyant, que l'amour a trois faces et que les femmes qui nous inspirent un amour complet sont bien rares. En comparant involontairement Amélie à Honorine, je trouvai plus de charme à la femme en faute qu'à la jeune fille pure. Pour Honorine, la fidélité n'était pas un devoir, mais la fatalité du cœur. Tandis qu'Amélie allait prononcer d'un air serein des promesses solennelles, sans en connaître la portée ni les obligations. La femme épuisée, quasi morte, la pécheresse à relever, me semblait sublime. Elle irritait les générosités naturelles à l'homme. Elle demandait au cœur tous ses trésors, à la puissance toutes ses ressources. Elle emplissait la vie. Elle y mettait une lutte dans le bonheur. Tandis qu'Amélie, chaste et confiante, allait s'enfermer dans la sphère d'une maternité paisible où le terre-à-terre devait être la poésie, où mon esprit ne devait trouver ni combat ni victoire. Entre les plaines de la Champagne et les Alpes neigeuses, orageuses mais sublimes, quel est le jeune homme qui peut choisir la crayeuse et paisible étendue? Non, de telles comparaisons sont fatales et mauvaises sur le seuil de la mairie. Hélas, il faut avoir exprimé la vie pour savoir que le mariage exclut la passion, que la famille ne saurait avoir les orages de l'amour pour base. Après avoir rêvé l'amour impossible avec ses innombrables fantaisies, après avoir savouré les cruelles délices de l'idéal, j'avais sous les yeux une modeste réalité. Que voulez-vous? Plaignez-moi. À 25 ans, je doutais de moi. Mais je pris une résolution virile. J'allai retrouver le comte sous prétexte de l'avertir de l'arrivée de ses cousines. Et je le vis redevenu jeune au reflet de ses espérances. « Qu'avez-vous, Maurice ? » me dit-il, frappé de l'altération de mes traits. « Monsieur le comte, vous ne m'appelez plus Octave ? Vous à qui je devrais la vie, le bonheur ? Mon cher Octave, si vous réussissez à ramener la comtesse à ses devoirs, je l'ai bien étudiée. » Il me regarda comme Othello dut regarder Iago, quand Iago réussit à faire entrer un premier soupçon dans la tête du mort. Elle ne doit jamais me revoir. Elle doit ignorer que vous avez eu Maurice pour secrétaire. Ne prononcez jamais mon nom, que personne ne le lui rappelle. Autrement, tout serait perdu. Vous m'avez fait nommer maître des requêtes. Eh bien, obtenez-moi quelques postes diplomatiques à l'étranger, un consulat, et ne pensez plus à me marier avec Amélie. Oh, soyez sans inquiétude, repris-je en lui voyant faire un haut-le-corps. J'irai jusqu'au bout de mon rôle. Pauvre enfant, me dit-il en me prenant la main, me lacérant et réprimant des larmes qui lui mouillèrent les yeux. « Vous m'aviez donné des gants, » repris-je en riant. « Je ne les ai pas mis, voilà tout. » Nous convînmes alors de ce que je devais faire le soir au pavillon, où je retournais dans la soirée. Nous étions en août, la journée avait été chaude, orageuse, mais l'orage restait dans l'air, le ciel ressemblait à du cuivre, les parfums des fleurs arrivaient, lourds. Je me trouvais comme dans une étuve, et me surpris à souhaiter que la comtesse fût partie pour les Indes. mais elle était en redingote de mousseline blanche, attachée avec des nœuds de ruban bleu, coiffée en cheveux, ses boucles crêpées le long de ses joues, assise sur un banc de bois construit en forme de canapé, sous une espèce de bocage, ses pieds sur un petit tabouret de bois et dépassant de quelques lignes sa robe. Elle ne se leva point, elle me montra de la main une place auprès d'elle en me disant « N'est-ce pas que la vie est sans issue pour moi ?»«
La vie que vous vous êtes faite, lui dis-je, mais non pas celle que je veux vous faire, car si vous le voulez, vous pouvez être bien heureuse. »
« Et comment ? » dit-elle. Toute sa personne interrogeait. « Votre lettre est dans les mains du comte. » Honorine se dressa comme une biche surprise, bondit à 6 pas, marcha, tourna dans le jardin, resta debout pendant quelques moments et finit par aller s'asseoir seule dans son salon où je la retrouvai quand je lui eus laissé le temps de s'accoutumer à la douleur de ce coup de poignard.
« Vous, un ami, dites un traître, un espion de mon mari peut-être. »
L'instinct chez les femmes équivaut à la perspicacité des grands hommes.
« Il fallait une réponse à votre lettre, n'est-ce pas? Et il n'y avait qu'un seul homme au monde qui put l'écrire.
Vous lirez donc la réponse, chère comtesse. Et si vous ne trouvez pas d'issue à la vie après cette lecture, l'espion vous prouvera qu'il est un ami, car je vous mettrai dans un couvent d'où le pouvoir du comte ne vous arrachera pas. Mais avant d'y aller, écoutons la partie adverse. Il est une loi divine et humaine à laquelle la haine elle-même feint d'obéir et qui ordonne de ne pas condamner sans entendre la défense. Vous avez jusqu'à présent condamné, comme les enfants, en vous bouchant les oreilles. Un dévouement de 7 années a ses droits. Vous lirez donc la réponse que fera votre mari. Je lui ai transmis par mon oncle la copie de votre lettre, et mon oncle lui a demandé quelle serait sa réponse si sa femme lui écrivait une lettre conçue en ces termes. Ainsi, vous n'êtes point compromise. Le bonhomme apportera lui-même la lettre du comte. Devant ce saint homme et devant moi, par dignité pour vous-même, vous devez lire, ou vous ne seriez qu'un enfant mutin et colère. Vous ferez ce sacrifice au monde, à la loi, à Dieu. » Comme elle ne voyait en cette condescendance aucune atteinte à sa volonté de femme, elle y consentit. Tout ce travail de 4 à 5 mois avait été bâti pour 7 minutes. Mais les pyramides ne se terminent-elles pas par une pointe sur laquelle se pose un oiseau? Le comte plaçait toutes ses espérances dans cette heure suprême, et il y était arrivé. Je ne sais rien, dans les souvenirs de toute ma vie, de plus formidable que l'entrée de mon oncle dans ce salon Pompadour à 10 heures du soir. Cette tête, dont la chevelure d'argent était mise en relief par un vêtement entièrement noir, et cette figure d'un calme divin produisirent un effet magique sur la comtesse Honorine. Elle éprouva la fraîcheur des baumes sur ses blessures. Elle fut éclairée par un reflet de cette vertu, brillante sans le savoir.
« Monsieur le curé des Blancs-Manteaux, » dit la Gobain,
« venez-vous, mon cher oncle, avec un message de paix et de bonheur ?» lui dis-je.
On trouve toujours le bonheur et la paix en observant les commandements de l'Église, répondit mon oncle en présentant à la comtesse la lettre suivante.
Ma chère Honorine, si vous m'aviez fait la grâce de ne pas douter de moi, si vous aviez lu la lettre que je vous écrivais il y a 5 ans, vous vous seriez épargné 5 années de travail inutile et de privations qui m'ont désolé. Je vous y proposais un pacte dont les stipulations détruisent toutes vos craintes et rendent possible notre vie intérieure. J'ai de grands reproches à me faire et j'ai deviné toutes mes fautes en 7 années de chagrin. J'ai mal compris le mariage. Je n'ai pas su deviner le danger quand il vous menaçait.
Un ange était dans ma maison. Le Seigneur m'avait dit « Garde le bien ».
Le Seigneur a puni la témérité de ma confiance.
Vous ne pouvez vous donner un seul coup sans frapper sur moi. Grâce pour moi, ma chère Honorine. J'avais si bien compris vos susceptibilités que je ne voulais pas vous ramener dans le vieil hôtel de la rue Païenne où je puis demeurer sans vous, mais que je ne saurais revoir avec vous.
J'orne avec plaisir une autre maison au faubourg Saint-Honoré, dans laquelle je mène en espérance, non pas une femme due à l'ignorance de la vie acquise par la loi, mais une sœur qui me permettra de déposer sur son front le baiser qu'un père donne à une fille bénie tous les jours. Me destituerez-vous du droit que j'ai su conquérir sur votre désespoir, celui de veiller de plus près à vos besoins, à vos plaisirs, à votre vie même? Les femmes ont un cœur à elles, toujours plein d'excuses, celui de leur mère. Vous n'avez pas connu d'autre mère que la mienne, qui vous aurait ramenée à moi. Mais comment n'avez-vous pas deviné que j'avais pour vous et le cœur de ma mère et celui de la vôtre? Oui, chère, mon affection n'est ni petite ni chicanière. Elle est de celles qui ne laissent pas à la contrariété le temps de plisser le visage d'un enfant adoré. Pour qui prenez-vous le compagnon de votre enfance, Honorine, en le croyant capable d'accepter des baisers tremblants, de se partager entre la joie et l'inquiétude? Ne craignez pas d'avoir à subir les lamentations d'une passion mendiante. Je n'ai voulu de vous qu'après m'être assurée de pouvoir vous laisser dans toute votre liberté. Votre fierté solitaire s'est exagérée les difficultés. Vous pourrez assister à la vie d'un frère ou d'un père sans souffrance et sans joie, si vous le voulez. Mais vous ne trouverez autour de vous ni raillerie, ni indifférence, ni doute sur les intentions. La chaleur de l'atmosphère où vous vivrez sera toujours égale et douce, sans tempête, sans un grain possible. Si plus tard, après avoir acquis la certitude d'être chez vous, comme vous êtes dans votre pavillon, vous voulez y introduire d'autres éléments de bonheur, des plaisirs, des distractions, vous en élargirez le cercle à votre gré. La tendresse d'une mère n'a ni dédain ni pitié. Qu'est-elle? L'amour, sans le désir. Eh bien, chez moi, l'admiration cachera tous les sentiments où vous voudriez voir des offenses. Nous pouvons ainsi nous trouver nobles, tous deux, à côté l'un de l'autre. Chez vous, la bienveillance d'une sœur, l'esprit caressant d'une amie, peuvent satisfaire l'ambition de celui qui veut être votre compagnon, et vous pourrez mesurer sa tendresse aux efforts qu'il fera pour vous la cacher. Nous n'aurons ni l'un ni l'autre la jalousie de notre passé, car nous pouvons nous reconnaître à l'un et à l'autre assez d'esprit pour ne voir qu'en avant de nous. Donc, vous voilà chez vous, dans votre hôtel, tout ce que vous êtes rue Saint-Maur. Inviolable, solitaire, occupé à votre gré, vous conduisant par vos propres lois. Mais vous avez en plus une protection légitime que vous obligez en ce moment aux travaux de l'amour le plus chevaleresque et la considération qui donne tant de lustre aux femmes et la fortune qui vous permet d'accomplir tant de bonnes œuvres. Honorine, quand vous voudrez une absolution inutile, vous la viendrez demander. Elle ne vous sera imposée ni par l'Église ni par le Code. Elle dépendra de votre fierté, de votre propre mouvement. Ma femme pouvait avoir à redouter tout ce qui vous effraie. Mais non l'ami et la sœur, envers qui je suis tenue de déployer les façons et les recherches de la politesse. Vous voir heureuse suffit à mon bonheur. Je l'ai prouvé pendant ces 7 années. Ah, les garanties de ma parole, Honorine, sont dans toutes les fleurs que vous avez faites, précieusement gardées, arrosées de mes larmes, et qui sont, comme les quipos des Péruviens, une histoire de nos douleurs. Si ce pacte secret ne vous convenait pas, mon enfant, j'ai prié le saint homme qui se charge de cette lettre de ne pas dire un mot en ma faveur. Je ne veux de voir votre retour ni aux terreurs que vous imprimerez l'Église, ni aux ordres de la loi. Je ne veux recevoir que de vous-même le simple et modeste bonheur que je demande. Si vous persistez à m'imposer la vie sombre et délaissée de tout sourire fraternel que je mène depuis 9 ans, si vous restez dans votre désert, seul et immobile, ma volonté fléchira devant la vôtre. Sachez-le bien, vous ne serez pas plus troublé que vous ne l'avez été jusqu'aujourd'hui. Je ferai donner congé à ce fou qui s'est mêlé de vos affaires et qui peut-être vous a chagriné. Monsieur, dit Honorine en quittant sa lettre qu'elle mit dans son corsage et regardant mon oncle, je vous remercie. Je profiterai de la permission que me donne monsieur le comte de rester ici. Ah ! M'écriai-je. Cette exclamation me valut de mon oncle un regard inquiet et de la comtesse une œillade malicieuse qui m'éclaira sur ses motifs. Honorine avait voulu savoir si j'étais un comédien, un oiseleur, et j'eus la triste satisfaction de l'abuser par mon exclamation, qui fut un de ces cris du cœur auxquels les femmes se connaissent si bien. « Ah, Maurice, me dit-elle, vous savez aimer, vous !» L'éclair qui brilla dans mes yeux était une autre réponse qui eût dissipé l'inquiétude de la comtesse si elle en avait conservé. Ainsi, le comte se servait de moi jusqu'au dernier moment. Honorine reprit alors la lettre du comte pour la finir. Mon oncle me fit un signe, je me levai. « Laissons, madame, me dit-il. Vous partez déjà, Maurice ? Me dit-elle sans me regarder. Elle se leva, nous suivit en lisant toujours, et sur le seuil du pavillon, elle me prit la main, me la serra très affectueusement et me dit « Nous nous reverrons ». « Non, répondis-je en lui serrant la main à la faire crier, vous aimez votre mari. Demain, je pars. » Et je m'en allai précipitamment, laissant mon oncle, à qui elle dit « Qu'a-t-il donc, votre neveu ? » Le pauvre abbé compléta mon ouvrage en faisant le geste de montrer sa tête et son cœur comme pour dire « Il est fou, excusez-le, madame. » Avec d'autant plus de vérité qu'il le pensait. 6 jours après, je partis avec ma nomination de vice-consul en Espagne, dans une grande ville commerçante, où je pouvais en peu de temps me mettre en état de parcourir la carrière consulaire à laquelle je bornais mon ambition. Après mon installation, je reçus cette lettre du comte. Mon cher Maurice, si j'étais heureux, je ne vous écrirais point. Mais j'ai recommencé une autre vie de douleur. Je suis redevenu jeune par le désir, avec toutes les impatiences d'un homme qui passe 40 ans, avec la sagesse du diplomate qui sait modérer sa passion. Quand vous êtes parti, je n'étais pas encore admis dans le pavillon de la rue Saint-Maur, mais une lettre m'avait promis la permission d'y venir, la lettre douce et mélancolique d'une femme qui redoutait les émotions d'une entrevue. Après avoir attendu plus d'un mois, je hasardai de me présenter, en faisant demander par la Gobain si je pouvais être reçu. Je m'assis sur une chaise, dans l'avenue, auprès de la loge, la tête dans les mains, et je restai là près d'une heure. « Madame a voulu s'habiller, » me dit la Gobain, afin de cacher sous une coquetterie honorable pour moi les irrésolutions d'Honorine. Pendant un gros quart d'heure, nous avons été l'un et l'autre affectés d'un tremblement nerveux involontaire, aussi fort que celui qui saisit les orateurs à la tribune, et nous nous adressâmes des phrases effarées, comme celles de gens surpris qui simulent une conversation. « Tenez, Honorine, lui dis-je les yeux pleins de larmes, la glace est rompue, et je suis si tremblant de bonheur que vous devez me pardonner l'incohérence de mon langage. Ce sera pendant longtemps ainsi. » il n'y a pas de crime à être amoureux de sa femme, me répondit-elle en souriant forcément.
Accordez-moi la grâce de ne plus travailler comme vous l'avez fait. Je sais par Madame Gobin que vous vivez depuis 20 jours de vos économies. Vous avez 60 000 francs de rente à vous. Et si vous ne me rendez pas votre cœur, au moins ne me laissez pas votre fortune.
Il y a longtemps, me dit-elle, que je connais votre bonté.
S'il vous plaisait de rester ici, lui répondis-je, et de garder votre indépendance, si le plus ardent amour ne trouve pas grâce à vos yeux, ne travaillez plus.
Je lui tendis 3 inscriptions, de chacune 12 000 francs de rente. Elle les prit, les ouvrit avec indifférence, et après les avoir lues, Maurice, elle ne me jeta qu'un regard pour toute réponse. Ah, elle avait bien compris que ce n'était pas de l'argent que je lui donnais, mais la liberté.
« Je suis vaincue, me dit-elle en me tendant la main que je baisais. Venez me voir autant que vous voudrez. »
Ainsi, elle ne m'avait reçue que par violence sur elle-même.
Le lendemain, je l'ai trouvée armée d'une gaieté fausse, et il a fallu 2 mois d'accoutumance avant de lui voir son vrai caractère. Mais ce fut alors comme un mai délicieux, un printemps d'amour qui me donna des joies ineffables. Elle n'avait plus de crainte. Elle m'étudiait. Hélas, quand je lui proposais de passer en Angleterre afin de se réunir ostensiblement avec moi, dans sa maison, de reprendre son rang, d'habiter son nouvel hôtel, elle fut saisie d'effroi.
« Pourquoi ne pas toujours vivre ainsi ? »
dit-elle. Je me résignai, sans répondre un mot. « Est-ce une expérience ? » me demandai-je en la quittant. En venant de chez moi, rue Saint-Maur, je m'animais. Les pensées d'amour me gonflaient le cœur et je me disais, comme les jeunes gens, « Elle cédera ce soir. » Toute cette force factice ou réelle se dissipait à un sourire, à un commandement de ses yeux fiers et calmes que la passion n'altérait point. Ce terrible mot répété par vous, Lucrèce a écrit avec son sang et son poignard le premier mot de la charte des femmes, « liberté », me revenait, me glaçait. Je sentais impérieusement combien le consentement d'Honorine était nécessaire et combien il était impossible de le lui arracher. Devinait-elle ces orages qui m'agitaient aussi bien au retour que pendant l'aller? Je lui peignis enfin ma situation dans une lettre, en renonçant à lui en parler. Honorine ne me répondit pas. Elle resta si triste que je fis comme si je n'avais pas écrit. Je ressentis une peine violente d'avoir pu l'affliger. Elle lut dans mon cœur et me pardonna. Vous allez savoir comment. Il y a 3 jours, elle me reçut, pour la première fois, dans sa chambre bleue et blanche. La chambre était pleine de fleurs, parée, illuminée. Honorine avait fait une toilette qui la rendait ravissante. Ses cheveux encadraient de leurs rouleaux légers cette figure que vous connaissez. Des bruyères du cap ornaient sa tête. Elle avait une robe de mousseline blanche, une ceinture blanche à longs bouts flottants. Vous savez ce qu'elle est dans cette simplicité. Mais ce jour-là, ce fut une mariée. Ce fut l'Honorine des premiers jours. Ma joie fut glacée aussitôt, car la physionomie avait un caractère de gravité terrible. Il y avait du feu sous cette glace.
« Octave, me dit-elle, quand vous le voudrez, je serai votre femme. Mais sachez-le bien, cette soumission a ses dangers. Je puis me résigner. » Je fis un geste. « Oui, dit-elle, je vous comprends. « La résignation vous offense, et vous voulez ce que je ne puis donner. L'amour, la religion, la pitié m'ont fait renoncer à mon vœu de solitude. Vous êtes ici. »
Elle fit une pause.
« D'abord, reprit-elle, vous n'avez pas demandé plus. Maintenant, vous voulez votre femme. Eh bien, je vous rends Honorine, telle qu'elle est, et sans vous abuser sur ce qu'elle sera. Que deviendrai-je ? « Mère, je le souhaite. Oh, croyez-le, je le souhaite vivement. Essayez de me transformer, j'y consens.
Mais si je meurs, mon ami, ne maudissez pas ma mémoire, et n'accusez pas d'entêtement ce que je nommerais le culte de l'idéal. S'il n'était pas plus naturel de nommer le sentiment indéfinissable qui me tuera, le culte du divin. L'avenir ne me regardera plus, vous en serez chargé. Consultez-vous. » Elle s'est alors assise, dans cette pose sereine que vous avez su admirer, et m'a regardée pâlissant sous la douleur qu'elle m'avait causée. J'avais froid dans mon sang. En voyant l'effet de ces paroles, elle m'a pris les mains, les a mises dans les siennes, et m'a dit « Octave, je t'aime, mais autrement que tu veux être aimé. J'aime ton âme, mais sache-le, je t'aime assez pour mourir à ton service comme une esclave d'Orient, et sans regret, ce sera mon expiation. » Elle a fait plus, elle s'est mise à genoux sur un coussin devant moi, et dans un accès de charité sublime m'a dit « Après tout, peut-être ne mourrai-je pas ? » Voici 2 mois que je combats. Que faire ? J'ai le cœur trop plein. J'ai cherché celui d'un ami pour y jeter ce cri. Que faire ? Je ne répondis rien. 2 mois après, les journaux annoncèrent l'arrivée par un paquebot anglais de la comtesse Octave rendue à sa famille, après des événements de voyage assez naturellement inventés pour que personne ne les contestât. À mon arrivée à Gênes, je reçus une lettre de faire part de l'heureux accouchement de la comtesse qui donnait un fils à son mari. Je tins la lettre dans mes mains pendant 2 heures sur cette terrasse, assis sur ce banc. 2 mois après, tourmenté par Octave, par messieurs de Granville et de Sérisy, mes protecteurs, accablé par la perte que je fis de mon oncle, je consentis à me marier. 6 mois après la révolution de juillet, je reçus la lettre que voici et qui finit l'histoire de ce ménage. « Monsieur Maurice, je meurs, quoique mère, et peut-être parce que je suis mère. J'ai bien joué mon rôle de femme. J'ai trompé mon mari, j'ai eu des joies aussi vraies que les larmes répandues au théâtre par les actrices. Je meurs pour la société, pour la famille, pour le mariage, comme les premiers chrétiens mouraient pour Dieu. Je ne sais pas de quoi je meurs. Je le cherche avec bonne foi, car je ne suis pas entêtée. Mais je tiens à vous expliquer mon mal. À vous qui avez amené le chirurgien céleste, votre oncle, à la parole de qui je me suis rendue. Il a été mon confesseur, je l'ai gardé dans sa dernière maladie. Et il m'a montré le ciel en m'ordonnant de continuer à faire mon devoir. Et j'ai fait mon devoir. Je ne blâme pas celles qui oublient. Je les admire, comme des natures fortes, nécessaires. Mais j'ai l'infirmité du souvenir. Cet amour de cœur qui nous identifie à l'homme aimé, je n'ai pu le ressentir 2 fois. Jusqu'au dernier moment, vous le savez, j'ai crié dans votre cœur, au confessionnal, à mon mari. Ayez pitié de moi. Tout fut sans pitié. Eh bien, je meurs. Je meurs en déployant un courage inouï. Jamais courtisane ne fut plus gaie que moi. Mon pauvre Octave est heureux. Je laisse son amour se repaître des mirages de mon cœur. À ce jeu terrible, je prodigue mes forces. La comédienne est applaudie, fêtée, accablée de fleurs. Mais le rival invisible vient chercher tous les jours sa proie, un lambeau de ma vie. Déchirée, je souris. Je souris à 2 enfants, mais l'aîné, le mort, triomphe. Je vous l'ai déjà dit, l'enfant mort m'appellera et je vais à lui. L'intimité sans l'amour est une situation où mon âme se déshonore à toute heure. Je ne puis pleurer ni m'abandonner à mes rêveries que seule. Les exigences du monde, celles de ma maison, le soin de mon enfant, celui du bonheur d'Octave, ne me laissent pas un instant pour me retremper, pour puiser de la force comme j'en trouvais dans ma solitude. Le qui-vive perpétuel surprend toujours mon cœur en sursaut. Je n'ai point su fixer dans mon âme cette vigilance à l'oreille agile, à la parole mensongère. à l'œil de lynx. Ce n'est pas une bouche aimée qui boit mes larmes et qui baignit mes paupières. C'est un mouchoir qui les étanche. C'est l'eau qui rafraîchit mes yeux enflammés et non des lèvres aimées. Je suis comédienne avec mon âme et voilà peut-être pourquoi je meurs. J'enferme le chagrin avec tant de soin qu'il n'en paraît rien au dehors. Il faut bien qu'il ronge quelque chose. Il s'attaque à ma vie. J'ai dit aux médecins qui ont découvert mon secret, « Faites-moi mourir d'une maladie plausible, autrement j'entraînerai mon mari. » Il est donc convenu, entre messieurs Desplein, Bianchon et moi, que je meure d'un ramollissement de je ne sais quelle os que la science a parfaitement décrit. Octave se croit adoré. Me comprenez-vous bien? Aussi ai-je peur qu'il ne me suive. Je vous écris pour vous prier d'être, dans ce cas, le tuteur du jeune comte. Vous trouverez ci-joint un codicille où j'exprime ce vœu. Vous n'en ferez usage qu'au moment où ce serait nécessaire, car peut-être ai-je de la fatuité. Mon dévouement caché laissera peut-être Octave inconsolable, mais vivant. Pauvre Octave, je lui souhaite une femme meilleure que moi, car il mérite bien d'être aimé. Puisque mon spirituel espion s'est marié, qu'il se rappelle ce que la fleuriste de la rue Saint-Maur lui lègue ici comme enseignement. Que votre femme soit promptement mère. Jetez-la dans les matérialités les plus vulgaires du ménage. Empêchez-la de cultiver dans son cœur la mystérieuse fleur de l'idéal, cette perfection céleste à laquelle j'ai cru, cette fleur enchantée aux couleurs ardentes, et dont les parfums inspirent le dégoût des réalités. Je suis une sainte Thérèse qui n'a pu se nourrir d'extase au fond d'un couvent avec le divin Jésus, avec un ange irréprochable, ailé pour venir et pour s'enfuir à propos. Vous m'avez vue heureuse au milieu de mes fleurs bien-aimées. Je ne vous ai pas tout dit. Je voyais l'amour fleurissant sous votre fausse folie. Je vous ai caché mes pensées. Mes poésies, je ne vous ai pas fait entrer dans mon beau royaume. Enfin, vous aimerez mon enfant pour l'amour de moi, s'il se trouvait un jour sans son pauvre père. Gardez mes secrets, comme la tombe me gardera. Ne me pleurez pas, il y a longtemps que je suis morte. Si Saint Bernard a eu raison de dire qu'il n'y a plus de vie, là où il n'y a plus d'amour. Et dit le consul en serrant les lettres et refermant à clé le portefeuille. La comtesse est morte. Le comte vit-il encore? Demanda l'ambassadeur. Car depuis la révolution de juillet, il a disparu de la scène politique. Vous souvenez-vous, monsieur de Laura, dit le consul général, de m'avoir vu reconduisant au bateau à vapeur? Un homme en cheveux blancs. « Un vieillard, » dit le peintre. Un vieillard de 45 ans, allant demander la santé, des distractions à l'Italie méridionale. Ce vieillard, c'était mon pauvre ami, mon protecteur qui passait par Gênes pour me dire adieu, pour me confier son testament. Il me nomme tuteur de son fils. Je n'ai pas eu besoin de lui dire le vœu d'Honorine. Connaissait-il sa position d'assassin? Dit mademoiselle Destouches au baron de l'Hostal. Il soupçonne la vérité, répondit le consul, et c'est là ce qui le tue. Je suis resté sur le bateau à vapeur qui l'emmenait à Naples jusqu'au-delà de la rade. Une barque devait me ramener. Nous restâmes pendant quelque temps à nous faire des adieux qui, je le crains, sont éternels. Dieu sait combien l'on aime le confident de notre amour, quand celle qui l'inspirait n'est plus. « Cet homme possède, me disait Octave, un charme, il est revêtu d'une auréole. » Arrivés à la proue, le comte regarda la Méditerranée. Il faisait beau par aventure, et sans doute, ému par ce spectacle, il me légua ses dernières paroles. « Dans l'intérêt de la nature humaine, ne faudrait-il pas rechercher quelle est cette irrésistible puissance qui nous fait sacrifier au plus fugitif de tous les plaisirs, et malgré notre raison, une divine créature. J'ai, dans ma conscience, entendu des cris. Honorine n'a pas crié seule, et j'ai voulu... Je suis dévorée de remords. Je mourrai, rue Payenne, des plaisirs que je n'avais pas. Je mourrai en Italie des plaisirs que j'ai goûtés. D'où vient le désaccord entre deux natures également nobles, j'ose le dire? Un profond silence régna sur la terrasse pendant quelques instants.
Était-elle vertueuse? Demanda le consul aux deux femmes.
Mademoiselle Destouches se leva, prit le consul par le bras, fit quelques pas pour s'éloigner et lui dit
« Les hommes ne sont-ils pas coupables aussi de venir à nous, de faire d'une jeune fille leur femme, en gardant au fond de leur cœur d'angéliques images, en nous comparant à des rivales inconnues, à des perfections souvent prises à plus d'un souvenir, et nous trouvant toujours inférieurs ?»«
Mademoiselle, vous auriez raison si le mariage était fondé sur la passion. » Et telle a été l'erreur des deux êtres qui bientôt ne seront plus. Le mariage, avec un amour de cœur chez les deux époux, ce serait le paradis.
Mademoiselle Destouches quitta le consul et fut rejointe par Claude Vignon qui lui dit à l'oreille
« Il est un peu fat, monsieur de l'Hostal. »
« Non, répondit-elle en glissant à l'oreille de Claude cette parole.
Il n'a pas encore deviné qu'Honorine l'aurait aimé.
Oh ! Fit-elle en voyant venir la consulesse.
Sa femme l'a écouté, le malheureux.
11 heures sonnèrent aux horloges. Tous les convives s'en retournèrent à pied, le long de la mer.
Tout ceci n'est pas la vie, dit Mademoiselle Destouches. Cette femme est une des plus rares exceptions et peut-être la plus monstrueuse de l'intelligence, une perle. La vie se compose d'accidents variés, de douleurs et de plaisirs alternés. Le paradis de Dante, cette sublime expression de l'idéal, ce bleu constant, ne se trouve que dans l'âme, et le demander aux choses de la vie est une volupté contre laquelle proteste à toute heure la nature.
À de telles âmes, les 6 pieds d'une cellule et un prie-Dieu suffisent.
Vous avez raison, dit Léon de Lora.
Mais, quelque vaurien que je sois, je ne puis m'empêcher d'admirer une femme capable, comme était celle-là, de vivre à côté d'un atelier, sous le toit d'un peintre, sans jamais en descendre, ni voir le monde, ni se crotter dans la rue.
Ça s'est vu pendant quelques mois, dit Claude Vignon avec une profonde ironie.
La comtesse Honorine n'est pas la seule de son espèce, répondit l'ambassadeur à Mademoiselle Destouches. Un homme, voire même un homme politique, un acerbe écrivain, fut l'objet d'un amour de ce genre. Et le coup de pistolet qui l'a tué n'a pas atteint que lui. Celle qu'il aimait, c'est comme cloîtré.
« Il se trouve donc encore de grandes âmes dans ce siècle ?»
dit Camille Maupin, qui demeura pensive, appuyée au quai pendant quelques instants.
Paris, janvier 1843.